Moi, j'avais une question sur l'animation de tout ce qu'on met sur Internet et le temps. Enfin, j'imagine qu'il faut, si on poste quelque chose une fois par an, ça sert à rien. Et donc, j'aurais aimé savoir, enfin, combien de temps il faut consacrer à tout ça, parce que, enfin, sur la recherche de ce qu'on va mettre, enfin, ça prend quand même beaucoup de temps.
Alors c'est là où la pertinence de, enfin l'optimisation de vos outils est importante. Je parlais, je sais que je suis allé vite, mais c'était justement pour qu'on ait tout ce temps-là pour en discuter après. Je parlais tout à l'heure de Google Reader. C'est un des buts de Google Reader, enfin des agrégateurs de flux en général. C'est-à-dire que au lieu, moi ce que je faisais avant, c'est que j'avais tous les mes fav dans mes favoris, j'avais tous les sites d'information, etc. que j'aimais fréquenter, et je me les passais un par un. Et je cherchais les articles, etc., comme un feuillet, un journal, quoi. Maintenant, avec les agrégateurs de flux, ça va beaucoup plus vite. Je dois avoir plusieurs centaines de sites répertoriés dans mon Google Reader. Et du coup, j'ai tous les directement les. Ça se passe comme ça avec Google. Vous avez tous les titres des articles qui tombent avec le site auquel il est relié. Donc ils s'affichent de façon chronologique. D'accord? Et donc, vous voyez le titre de l'article, le titre vous intéresse, vous cliquez une fois, ça s'ouvre et vous avez quelques lignes, les premières lignes de l'article qui apparaissent. Si ces lignes de l'article vous confirment que vous êtes intéressé par le fait de lire l'article, vous cliquez une deuxième fois et l'article s'ouvre en grand sur votre page. Ce qui fait que sur une seule page de Google Reader, vous avez par exemple tous les articles dans tous les domaines qui vous intéressent. Et vous pouvez très vite faire le tri, ouvrir les articles, laisser de côté cela. Après, vous marquez toute votre liste comme étant lue. Et ce qui fait que la fois d'après où vous vous connecterez, vous verrez que les nouveaux articles qui sont apparus. Vous comprenez? Donc ça, c'est un exemple pour vous dire que c'est un outil qui permet de gagner du temps. Ensuite, c'est sûr que ça prend du temps. Mais par rapport à ce que ça en fait gagner côté réseautage, si vous voulez, c'est toujours pareil. Il faut considérer ça à l'aune de votre objectif. C'est pour ça que le mot stratégie me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. Si vous le faites en plus de votre travail de thèse, sans avoir vraiment l'impression que ça sert à quelque chose d'utile, il vaut mieux pas le faire. Vous pourrez toujours voir les choses comme elles viennent et puis saisir les opportunités au quotidien. Si par contre vous avez en tête un projet qui est un peu plus construit, vous vous dites, voilà, j'arrive à la fin de ma thèse, je ne sais toujours pas ce que je vais faire, il faudrait quand même que j'ai envie d'aller faire un postdoc dans telle université ou j'ai envie de travailler dans telle entreprise parce que eux, ils ont vraiment une politique qui m'intéresse par rapport à mon domaine. À ce moment-là, ça vaut le coup de vous dire, vous allez vous dire, tiens, je vais me positionner sur Internet comme étant un expert de ce domaine et je vais m'intéresser de très près justement à tel et tel aspect de mon domaine parce que c'est celui qui rentre directement en contamination avec l'activité de cette entreprise. Et du coup, pour faire ça, je vais veiller sur Internet, je vais publier sur ce domaine-là, etc., pour essayer d'ensuite intéresser les gens. Vous voyez, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose et ça va devenir logique et évident de passer du temps à ça. Maintenant, encore une fois, la question du temps, c'est celle qui est complètement d'actualité par rapport aux entreprises aujourd'hui à propos des réseaux sociaux. Parce que les entreprises, les internautes obligent, il y a tellement, c'est les chiffres que j'ai mis au départ, il y a tellement d'internautes qui sont sur les réseaux sociaux et qui prennent en compte les différents avis qui sont dessus. Un chiffre, enfin deux chiffres tout simplement, il y a 78% des internautes qui font confiance à l'avis d'une personne inconnue sur Internet. Inconnue. C'est 90% d'une personne connue. Mais 78%, donc presque 80%, qui font confiance à l'avis d'une personne inconnue. Il n'y a que 14% des internautes qui font confiance à la publicité. Donc vous voyez pourquoi les entreprises sont obligées maintenant d'avoir une présence et de soigner leur e-réputation. Maintenant, pour autant, les entreprises ont aussi encore tendance à se dire, oui, mais aller sur Internet, on va y passer du temps, etc. Les mêmes entreprises ne font pas du tout attention que dans la même journée, ils peuvent passer 2 heures à organiser une réunion qui va se terminer juste par le choix de la prochaine date de la prochaine réunion. Parfois, ça arrive aussi. Donc, c'est une notion de temps qui doit être à la fois évaluée par rapport à l'objectif qui est le nôtre et aussi par rapport à la finalité, c'est-à-dire à ce que ça apporte, ce que ça fait gagner de temps par rapport si on devait faire cette même chose en dehors avec d'autres moyens plus traditionnels, quoi. Voilà, c'est tout ça qu'il faut considérer avant. Maintenant, pour savoir combien de temps ça prend, ça dépend de ce qu'on fait. Si vous avez des facilités pour écrire et que vous connaissez bien votre sujet, un article, vous allez pouvoir l'écrire assez vite sur un blog. Une fois que vous aurez un outil en main, un tweet, ça prend quelques secondes. Voilà, c'est la mise en place de tout ça qui va être plus difficile la plupart du temps. Après, vous rentrez dans une routine et vous y consacrez le temps que vous voulez y consacrer, quoi.
Bonjour, j'ai deux questions. La première fait suite à la précédente par rapport à un blog que l'on tient. Il faut quand même l'actualiser. Ça ne sert à rien s'il y a seulement deux entrées par année. Est-ce qu'il y a un seuil minimal, en fait, à fournir pour que ça vaille la peine de tenir un blog? Et puis, la deuxième question porte sur l'irréputation, qui est tout comme la réputation réelle. Ça peut être une bonne réputation, mais aussi une mauvaise réputation. Et puis, je me demandais jusqu'à quel point prendre des positions, par exemple, ou faire preuve de son expertise sur des questions sociales, est-ce que ça ne peut pas aussi avoir des effets pervers, par exemple, sur une carrière universitaire où il faut être objectif, ou alors pour des entreprises aussi, ou qui préféreraient avoir des profils plus effacés, où ce serait préférable de seulement mettre notre CV, les publications, les trucs comme ça, mais sans justement aller dans des textes d'opinion, des blogs ou autre chose.
Alors, pour la première question, vous me rappellerez la seconde si je l'ai oublié tout à l'heure. Parce que pour la première question, oui, ce qui compte dans un blog notamment, c'est d'être régulier. Après, vous choisissez votre rythme. On dit souvent que ce qui est bien, c'est un billet par semaine. Mais l'important, c'est en fait d'arriver à être... c'est un rythme correct, disons. Si vous publiez plus, c'est mieux, évidemment. Mais un billet par semaine, ça peut être bien. Et franchement, publier un billet par semaine lorsque vous savez que vous allez le publier, c'est relativement facile parce que vous allez avoir plein d'idées dans la semaine qui vont venir du coup. Si vous savez que vous avez un billet en attente, quoi. Et vous allez d'un seul coup découvrir des idées que vous ne vous soupçonniez pas auparavant. En fait, l'idée, c'est de répondre là encore aux attentes de ceux qui vous lisent. Et donc, la régularité fait partie, justement, de ce genre de considération envers ceux qui vous lisent, parce que voilà, si vous voulez faire partie de leur, non pas de leur quotidien, mais de leur hebdomadaire, une fois par semaine, c'est bien. Concernant la prise de position, et ça c'est aussi très intéressant, il y avait une mode sur Twitter il y a un peu plus d'un an, ou il y a un an, il y en a encore, hein, on en trouve encore sur les profils, c'était des professionnels, parfois même des professionnels du web, beaucoup des journalistes, des directeurs marketing, etc., qui dans leur profil mettaient leur profession, leur entreprise, et derrière disaient « mes tweets n'engagent que moi ». Et j'ai écrit un article à ce propos il y a pas longtemps, en parlant de l'aberration que ça représente, parce que c'est totalement en contradiction avec la notion même d'irréputation. Vous ne pouvez pas vous réclamer d'une entreprise et derrière dire que vos tweets n'engagent que vous. Pourquoi ? Parce que les gens, s'ils vont vous suivre et vous écouter alors qu'ils ne vous connaissent pas, c'est justement parce qu'ils vous identifient à la crédibilité et à la légitimité d'une entreprise. Parce que vous faites partie de France Télécom, vous allez, ou d'Orange, pardon, vous allez être crédible dans tel ou tel domaine. Donc ils vont vous suivre sur Twitter. Donc vos tweets ne vont pas engager que vous, puisque c'est justement la raison d'être pour laquelle ils vous suivent et dépend de l'entreprise dont vous faites partie. Donc il y a là une aporie, un paradoxe, même plus qu'un paradoxe, une impasse. Et du coup, c'est quelque chose qui est en train effectivement d'être pris en compte par ceux qui ne l'avaient pas fait jusqu'à présent pour montrer que justement les outils de communication, les réseaux sociaux et notamment Twitter, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les entreprises sont en train de se rendre compte que ce qu'ils ont considéré comme des gadgets ou des choses un peu ludiques, ce sont des outils de communication puissants et dangereux aussi du coup. Parce que si vous voulez vous montrer comme étant un expert dans tel domaine et que avec le même outil vous commencez à prendre des positions politiques ou vous commencez à parler du nombre de sucres que vous mettez dans votre café dès le matin, ou que du coup, les gens qui vous suivent pour votre expertise ne vont plus comprendre. Et du coup, ils vont arrêter de vous suivre. Et vous êtes grillé. Vous comprenez ? C'est là, c'est pour ça, là encore, je reviens au mot de stratégie. La stratégie, ça consiste aussi à utiliser chaque réseau social en fonction de ses particularités et de sa façon de fonctionner. Facebook est unanimement reconnu quand même comme étant un outil, je vais utiliser le mot en anglais, friendly, c'est-à-dire un outil convivial, un outil ludique. Mais quelqu'un qui a sa page Facebook professionnelle ne va pas pouvoir non plus mettre le matin au vu et au su de tous ses contacts qui sont aussi ses collaborateurs, une photo de lui torse nu en train de boire sa troisième bière au barbecue du week-end. Vous comprenez ? Parce que vous allez à ce moment-là, si c'est un, je parle d'un profil purement professionnel, à ce moment-là, vous allez rentrer en contradiction avec la ligne stratégique que vous étiez fixée. Pareil sur Viadeo, pareil sur LinkedIn, pareil aussi sur Twitter, où ça va être important de mettre en place ce qu'on appelle une ligne éditoriale. On parle vraiment de ligne éditoriale. Voilà. Donc par rapport à ça, dans l'article en question, pour finir là-dessus, je conseillais, moi, sur Twitter en tout cas, c'était là-dessus que ça portait, de créer à ce moment-là, parce que Twitter, vous pouvez créer un compte privé sur Twitter. Donc pourquoi à ce moment-là ne pas créer un compte privé, c'est-à-dire où vous filtrez le nombre des gens qui s'abonnent à vous, et vous faites ça soit sous votre propre nom, soit sous un pseudonyme éventuellement, mais à ce moment-là, vous pouvez vous lâcher et dire ce que vous pensez, et puis vous créez ensuite un compte public professionnel à valeur de diffusion virale, où là, vous essaimez, entre guillemets, votre expertise et votre réputation professionnelle.
J'avais une question pour vous, en fait. Vous parliez tout à l'heure du fait de mettre son profil, les colloques, de manière... Vous avez utilisé le terme « effacer ». Et c'est paradoxal, puisque du moment où vous vous mettez en vue au-dessus, vous êtes visible, vous n'êtes pas effacé. Et l'intérêt de ces outils est de effectivement anticiper une stratégie, et vraiment toute l'utilité du travail de Stéphane, d'anticiper ce que vous voulez, comment vous vous positionnez, comment vous voulez que les autres vous positionnent, vous identifient, construisent votre identification. Et sur le fait que donner un avis ou un jugement n'est pas pareil. Alors je vais faire un peu de sémantique. Le jugement, ça veut dire droit. Donc si vous émettez un jugement en expliquant et en argumentant, même s'il peut avoir un impact négatif par rapport à ce que vous souhaitiez, vous pouvez l'assumer puisque vous avez de toute façon créé chez la personne en disant elle l'a argumenté. Elle y a mis assez d'éléments pour qu'effectivement je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord, mais en tout cas sur la manière stratégique d'avoir amené cette position, eh ben vous lui donnez aussi une image de professionnel. Vous voyez, ça paraît toujours un peu abscon, mais en tout cas tous ces éléments créent chez l'autre, chez celui qui lit, celui qui est aussi dans la vie réelle, qui vous êtes. Il va vraiment créer cette image professionnelle de ce que vous êtes, ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Quoi. Donc les outils sont à utiliser avec à bon escient, de manière juste. Et vous pouvez vraiment en faire profit pour vraiment savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Quoi.